et ce que je trouve aussi beau, c'est de se dire, ben, en fait, un projet, c'est comme la vie, ça peut pas être parfait. Donc, en fait, là, ma cuisine, elle est opérationnelle, je vais pouvoir faire des gâteaux. Mais même si au début, j'ouvre et j'ai peut-être pas mes 15 gâteaux à la carte parce que je démarre avec mes deux mains et je préfère m'organiser et en sortir 5, nickel. En fait, je pense que les gens sont tout à fait aptes à comprendre ça.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. La première fois que j'ai rencontré Sophie, c'était à l'occasion d'un club du vin à Marseille. Et comme le but, ce n'est pas non plus de boire le ventre vide, on était toutes venues avec quelque chose à grignoter ce soir-là. Sophie avait préparé des pastéis de nata, divinement feuilletés, bien dorés, avec un appareil si onctueux qu'on aurait dit un nuage. Je me suis alors demandé, mais qui fait aussi bien de la pâtisserie maison ? En fait, Sophie Lauvergne est une pâtissière en reconversion. Après des années passées devant un ordinateur, un diplôme de commerce en poche, elle réalise que l'épanouissement est ailleurs. Il se cache dans le sucre et le beurre. Sophie aime la pâtisserie de tous les jours. Celle qui évoque les goûters après l'école et le dimanche après-midi. Ce sont donc les flans à la vanille méga crémeux à l'intérieur, les cookies chocolat noir polenta et fleur de sel, les gâteaux farine de petite épeautre, poudre de noisette avec sa crème fouettée par-dessus, des douceurs mi-brioche, mi-pain au lait qui s'emportent et s'engloutissent parfaitement après la baignade. Bref, Sophie le dit, ce qu'elle aime, c'est la pâtisserie simple et réconfortante, ainsi que les gâteaux de voyage, cette famille de gâteaux souvent réalisés à partir d'une pâte à cake qui se ballotte et se conserve facilement sans craindre les écarts de température. Elle raconte aussi un souvenir d'enfance, celui des après-midi en Corse avec sa mamie à faire un gâteau au thé brun. Vous savez, ces gâteaux simplement constitués d'une superposition de gâteaux industriels imbibés de café et de crème au beurre. Elle concède, c'est sûrement envers et contre ça que j'ai voulu apprendre à faire de bons gâteaux, même si en vrai, ce dessert, elle en raffolait. Alors voilà, en 2018, Sophie se retrousse les manches pour se donner les moyens de mettre les petits moules dans les grands. Elle passe son CAP pâtisserie. En 8 mois, elle l'obtient en candidat libre. 8 mois, chez Sophie, c'est une durée clé, parce que c'est aussi celle qu'il lui a fallu pour trouver un local à Marseille, faire des travaux et ouvrir encore un morceau, sa pâtisserie de quartier. 8 mois pour le CAP, 8 mois pour le local, c'est donc en 16 mois que Sophie est devenue une vraie pâtissière. Cet épisode, on l'a enregistré dans son nouveau QG, pas encore enfariné, sa pâtisserie à quelques semaines de l'ouverture. J'ai rejoint Sophie, place Saint-Eugène dans le 7e arrondissement à Marseille, dans ce quartier déjà plein de petits commerces de bouche au milieu desquels elle a hâte de se faire sa place. Un peu stressée, méga excitée, encore un peu par monts et par vaux, tout en sentant l'arrivée de la dernière ligne droite, Sophie ressent le vertige propre à toute personne se trouvant à deux doigts de commencer sa nouvelle vie. Et malgré ce grand chambardement, elle a accepté de m'accueillir dans sa cuisine encore en travaux pour répondre à mes questions. Cette discussion est faite pour toutes celles et ceux qui ouvrent un endroit et sont curieux d'entendre le récit de quelqu'un qui l'a fait. On y parle des étapes administratives que ça suppose, de la visite du local, des critères à avoir en tête, des travaux du business plan et de l'importance de se faire aider. Mais j'en suis convaincue, cet épisode intéressera aussi toute personne qui aime connaître l'envers du décor, ce qui se cache derrière les vitrines. Sophie donne également un conseil. Dans le cas d'une reconversion, avant d'ouvrir un lieu physique, il n'est pas inintéressant de commencer à tester sa pratique pour être certain qu'on ne se trompe pas de voie. C'est pour cela qu'elle a notamment profité du confinement pour faire beaucoup de gâteaux sur commande, en livrant des particuliers, en assurant des événements pour des entreprises. Tout ça en préparant des montagnes de pâtisseries depuis sa cuisine domestique. Aujourd'hui, elle a donc grand hâte de passer de son petit four ménager au four professionnel de son local. Allez hop, commençons avant que ça ne refroidisse. Allons rejoindre Sophie.
Nous sommes dans mon local, j'ai encore du mal à dire ça, mais dans mon local qui est situé place Saint-Eugène dans le 7e arrondissement à Marseille. Donc une très chouette place où il y a plein de commerces de bouche, le fromager, le boucher, une pharmacie, voilà. Et moi, je suis à côté du petit primeur de cette place, donc c'est un local qui est tout en longueur avec une partie vente boutique et une partie cuisine. Donc là, on est dans la cuisine, dans ma cuisine, dis donc, avec une très jolie vue. Ça, c'est vraiment la pépite de ce local. J'ai quand même une cuisine où je vais pouvoir travailler en ayant une très belle vue avec même au loin la mer. Donc ça, c'est bien.
Elle est incroyable, cette vue. Alors moi, c'est la première fois que je viens ici. Et donc, j'avais déjà vu des photos des travaux, de voilà, un peu les premiers ustensiles que tu recevais. Mais je n'avais pas idée, oui, que tu avais une aussi jolie vue qui, en fait, permet vraiment de travailler sans avoir l'impression d'être dans une arrière-boutique un peu sombre.
C'est quand même un luxe d'avoir cette vue pour travailler parce que c'est la lumière du jour, quoi. Et que dans des cuisines de restaurants, très souvent, c'est la lumière du néon. Enfin, voilà. Donc, j'ai de la chance là-dessus.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ce que va être cet endroit, du projet, de comment il est né d'abord dans ton cœur ?
Encore un morceau, donc ma marque, mon petit projet, ça a commencé à Paris il y a bientôt 3 ans. Au début, à Paris, je faisais de la livraison pour traiteurs et particuliers. Et moi, je suis de Montpellier à la base, donc je savais que je voulais retourner dans le sud et que je ne ferais pas ma vie à Paris. Et en fait, le Covid aidant m'a amenée ici à Marseille, où je me suis dit, en fait, moi, dans mon projet, j'ai envie d'avoir une boutique, un local, et ça n'a pas de sens de l'avoir à Paris parce que je sais que c'est pas là où je veux faire ma vie. Donc, ça s'est un petit peu fait comme ça, la réflexion. Et donc, quand j'ai déménagé à Marseille cet été, je suis arrivée cet été à Marseille, je me suis directement dit, bon, bah, je vais recommencer ce que je faisais à Paris, mes petites commandes un petit peu pour me faire connaître. Mais en parallèle, je vais chercher un local parce que c'est de ça dont j'ai envie. Puis, 8 mois plus tard, voilà, ça s'est fait avec ce local-là. Et là, je suis sur la fin des travaux. Je suis pas encore ouverte. J'ouvre dans, quelques semaines, on va dire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement.
En fait, tout ce que tu viens de dire me fait réaliser que... Tout ça s'est fait en moins d'un an.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un an encore, tu n'étais même pas dans cette ville. Tu avais du coup encore ce service traiteur, mais pas vraiment d'idée précise de lieu. Et aujourd'hui, on est là, assise dans cette cuisine qui va bientôt recevoir tous ces gâteaux. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui se passe avant, en amont, notamment peut-être d'un point de vue administratif? Quelles sont les grandes étapes par lesquelles on passe?
Moi déjà, donc jusqu'à avoir ce local, j'étais auto-entrepreneur. Statut le plus simple pour démarrer, se lancer, se tester. Sauf qu'en fait, quand tu te dis « maintenant, je veux vraiment développer mon activité, je veux être dans un local, faire des ventes, etc. », très rapidement, ce statut va pas te permettre d'évoluer dans ce sens et tu passes sur un statut de société. Donc là, tu arrives et tu es là « ok, on me parle de SAS, de SARL, de SASU, je n'y comprends, j'y comprends un peu, mais pas trop. On me parle de « ah, tu passes en société, il va falloir avoir un comptable ». Enfin, ça paraît évident après coup, mais en fait, au début, tu dis « bon, comment je procède ?» Donc, il y a toute cette paperasse qui est à gérer et même là, encore maintenant, je suis à 3-4 semaines d'ouvrir et... des trucs vraiment tout bêtes, mais avoir le Wi-Fi dans le local, j'ai un local, il faut des extincteurs, donc appeler les sociétés qui s'occupent de ça. Il y a des tas de paramètres en amont qui fait qu'en fait, c'est à la fin que je vais faire des gâteaux, ce qui est vraiment mon cœur de métier. Mais là, jusqu'à présent, c'est vraiment le statut chef de chantier, chef de projet qui prime. C'est intéressant parce que du coup, je suis sur tous les fronts et je vois l'envers de tout. Et ça fait aussi réfléchir et se dire, mais en fait, je respecte n'importe qui a ouvert un commerce parce que vraiment, c'est pas donné à tout le monde des chapeaux. Mais voilà.
Donc, avant d'être chef pâtissière, tu es donc chef de projet, chef des travaux.
Exactement. Pour le coup, pas paradoxalement, mais donc moi, la pâtisserie, c'est une reconversion. Et avant, j'ai fait une école de commerce, j'ai bossé en marketing, achat. Mais en fait, tout ça, ça m'a aidé à faire ça aujourd'hui parce que, comme je le dis, il y a certes la partie... cuisine, gâteau, mais il y a aussi une vraie partie de, déjà, j'ai une équipe qui m'a fait les travaux, donc c'est exprimer clairement sur tes attentes, tes besoins, c'est être clair dans les mails que tu rédiges. Enfin, il y a vraiment toute une partie gestion de projet où je pense clairement que mon historique, mon parcours m'a aidé là-dessus.
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on disait avant de commencer l'interview, c'est qu'on est rarement prêt, même quand on s'installe dans un appartement ou encore a fortiori, j'imagine, quand on lance un commerce, on a rarement tout qui est prêt.
Jamais même.
Qui est senti, qui est genre nickel. C'est genre, bon, il y a un moment, il faut ouvrir et puis, ou alors il faut s'installer. Et tant qu'on a chez soi de quoi dormir, se doucher, se faire à manger, bon, bah, le reste va être
exactement.
Des petites choses qui vont s'organiser au fil de l'eau.
Complètement. Et puis, c'est ça, moi, c'est ce que je trouve aussi beau, c'est de se dire, un projet. C'est comme la vie, ça peut pas être parfait. Donc en fait, là, ma cuisine, elle est opérationnelle. Je vais pouvoir faire des gâteaux. Mais même si au début, j'ouvre et j'ai peut-être pas mes 15 gâteaux à la carte parce que je démarre avec mes deux mains et je préfère m'organiser et en sortir 5, nickel. En fait, je pense que les gens sont tout à fait aptes à comprendre ça. Et enfin, c'est le côté plus humain de dire, voilà, le truc, c'est pas la perfection, mais c'est quand même cool. Je peux ouvrir. Et puis le reste va se décanter naturellement. Je vais aussi m'adapter en fonction des gens qui viennent. Donc non, à un moment, il faut se lancer. Ça fait peur. Mais sinon, j'ouvre en septembre. C'est pas possible.
Mais je suis sûre que tu vas faire des merveilles avec cette grande cuisine. Parce que donc, j'ai déjà eu la chance de goûter à tes pâtisseries. Et puis aussi de voir chez toi ta cuisine.
Ah ouais, bah voilà.
Tu faisais tout avec ton petit four.
Oui. Et encore, t'as pas vu ma cuisine à Paris. C'était pire. Comme quoi, en fait, tout est possible. C'est pas... Donc là, encore plus parce que j'ai une super cuisine toute équipée et toute grande. Mais même dans un petit espace, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça. Enfin, et puis même, il y a beaucoup de pâtisseries ou de gens de la cuisine qui ont démarré, en fait, chez eux. Parce que, au début, tu peux pas commencer direct en disant « Vas-y, j'ai un local, t'as pas forcément les moyens financiers, mais tu peux quand même te tester. »
Et ce local, comment tu l'as trouvé ? Est-ce que t'en as visité beaucoup ?
Pour moi, le nerf de la guerre, c'est la recherche d'un local et c'est ne pas se décourager malgré toutes les visites qu'on fait. En fait, ce local, je l'ai visité, c'est un des tout premiers que j'ai visité en arrivant à Marseille cet été.
Ouais.
Il y a eu plusieurs péripéties, j'avais plus ou moins abandonné la piste. En gros, j'ai pris un café un jour sur cette place. Quand je suis partie, j'ai vu la devanture fermée. Je me suis dit, je vais essayer d'en savoir plus. En entrant chez le primeur, j'ai eu les coordonnées à qui appartenait ce local. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à savoir que le local était en vente. Sauf qu'ensuite, j'ai un peu abandonné la piste parce qu'il y avait des histoires entre le locataire et le propriétaire. Enfin, c'était compliqué. Donc, j'avais complètement abandonné la piste. Et du coup, de septembre à décembre, j'ai dû en visiter, je sais pas, une dizaine, une vingtaine. Mais à chaque fois, surtout dans la restauration, c'est compliqué de trouver un lieu où tu as l'extraction, qui répond aux critères de déjà le local, est-ce qu'il est aux normes, est-ce que je peux faire une activité de restauration, parce que souvent ce qui est compliqué, c'est que dans les baux, suivant le type d'activité autorisée, restauration, pâtisserie peut ou pas en faire partie. Plus, est-ce que l'emplacement correspond, il y a des tas de critères, le prix, il y a des tas de critères qui font que c'était assez compliqué cette recherche, d'autant plus compliqué que plus t'en visites, plus t'as tendance à désespérer quand ça se fait pas. Et en fait, je sais pas, signe du destin, en fin d'année, le propriétaire du local m'a rappelé en me disant grosso modo, j'ai réévalué le prix du local, etc. Voilà, je le remets en vente. Est-ce que ça vous intéresse toujours ? Et là, j'ai sauté. J'ai dit, mais oui, moi, c'est signe du destin, cette petite arche-là. Je la voyais très bien. Donc, ça, c'est un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de pas se désespérer parce que c'est dur. À chaque local que tu visites, déjà, tu deviens plus ou moins exigeant et la visite, elle peut être de plus en plus rapide parce que tu sais déjà repérer les défauts, ce qui va pas, en fait, ce qui te convient au fur et à mesure. C'est bien d'en visiter beaucoup pour ça parce que du coup, tu affines tes critères, tu dis mais là, tu sais que tu veux ça ou pas. Mais tu peux aussi te dire, je trouve pas, ça m'énerve, je me désespère, je trouverai jamais. Vu que je faisais mes petites commandes à côté, je me disais j'ai quand même ça que je vais développer et que je vais continuer. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'étais là, mais j'en ai marre, je trouverai jamais, je vais jamais pouvoir avancer. Donc voilà, c'est première étape, c'est trouver le local. Étape pas facile et après, on part sur une autre étape, les travaux. Pas facile non plus, mais déjà, tu te dis, j'ai l'essentiel. J'ai quand même le local et pour avoir plusieurs amis qui en recherchent un actuellement, je sais que c'est pas la partie la plus facile.
Et pour bien organiser cette recherche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est bien, par exemple, d'avoir en tête précisément les critères de ce que tu attends du local et de prioriser ? Parce que j'imagine que les locaux offrent jamais tous les critères d'un coup et que de temps en temps, il y a un coup de cœur sur un endroit et puis qui pêche peut-être sur un des critères. Mais
complètement.
Si c'est un critère qui arrive un peu à la fin de ta liste, tu peux aussi décider de t'asseoir dessus. Est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce qu'au contraire, il faut un peu plus s'ouvrir à...
Je pense que c'est pas mal déjà d'avoir un peu une idée de, bon, bah voilà, je cherche une cuisine, donc j'aimerais une surface de temps parce que je veux, bah moi, par exemple, j'aimerais donner des ateliers, donc il ne faut pas que ma cuisine elle fasse 10 mètres carrés, sinon je ne pourrais pas accueillir les gens. Donc, en fait, je pense qu'il faut d'abord établir les critères sur lesquels on ne peut pas déroger, à savoir, bah je veux que ma cuisine elle fasse tant de surface parce que je veux avoir la place de mettre mon four, mon pétrin, etc. Et en fonction de ça, eh ben, du coup, c'est plus facile de sélectionner les lieux qui ne te vont pas. Parce que si tu raisonnes à l'inverse, parfois, tu peux avoir des coups de cœur pour un lieu où tu vas dire « il est ouf », mais en fait, finalement, la cuisine, elle est petite. Et du coup, tu vas remodeler ton projet en fonction du local, alors qu'en fait, bah, ce n'est pas logique. Il faudrait d'abord que ce soit ton projet la priorité. Et bah, si ce n'est pas ce local qui était certes mignon, etc., c'est que ça ne matche pas.
Oui, donc une fois qu'on a ce local, oui. Il se pose la question des travaux quand c'est nécessaire. Est-ce que ça a été, ton cas ?
Oui,
oui, oui, j'ai l'impression que oui.
Parce que, alors déjà, plusieurs points. Premier point, bon, bah, comme vous le voyez, je suis toute seule à faire ce projet. Donc, j'ai pas la chance, c'est pas une question de chance, mais j'ai pas d'associé sur qui me reposer où je pourrais dire, ben, peut-être sur les travaux, il s'y connaît. Enfin, moi, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Tu récupères un local, tu signes, t'es trop content, et après, t'as vraiment le coup de mou de, OK, j'ai les clés. Comment ça se passe là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, j'ai eu un gros coup de stress. Heureusement, j'ai la grande chance d'avoir mon papa qui m'aide, enfin mes parents, mais mon papa plus pour le côté bricoleur qui m'aide là-dedans. Donc, qui de suite m'a dit, parce qu'il a l'habitude un peu des chantiers, qui m'a dit, bon, bah, écoute, t'as un local, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va penser la cuisine ? Donc, ça a démarré comme ça. Mon père et moi, on a bossé sur, ben, voilà ce qu'on veut. On va leur donner toutes nos consignes, l'endroit très exact où on veut des prises électriques dans le local pour le branchement des fours, poêles, etc. Et après, ben, c'est eux qui ont tout fait. Et j'avoue, il y a cette petite phase, ben, de avant que les travaux ne commencent, de ben, par où on commence, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que certes, l'équipe travaux, elle va te faire le placo, tout ça, mais en fait, elle va appliquer ce que tu leur dis. Donc, il faut savoir quoi leur dire. Donc, il faut savoir, bah, c'est ça, en fait, définir, OK, j'ai une cuisine, j'ai un four, c'est du triphasé, du mode, ah, j'ai appris des mots. mais c'est tout ça, en fait, c'est la première phase où tu te dis, ben, c'est vraiment, ouais, t'es un peu l'architecte, tu conçois ton lieu, et en fonction de ça, tu donnes les consignes à l'équipe chantier, et puis après, une fois que ça démarre, ben, c'est tout le temps être un peu derrière eux, à surveiller, à checker que, ben, ils font les trous au bon endroit, etc. Et suivre ça pendant quelques mois.
Ce que je retiens de ce que tu dis, un conseil peut-être pour nos auditeurs et auditrices, ce serait de ne pas hésiter du coup à solliciter les gens qui t'entourent. Bah, là, dans ton cas, t'as ton père qui peut t'aider. Et puis aussi solliciter, demander une recommandation, ça c'est pas mal.
Complètement.
De se dire, là j'aime ce qui a l'air d'avoir été fait dans tel ou tel endroit. Mmh. Allons voir cette personne, demandons-lui.
Exactement.
Le bouche à oreille en fait.
C'est vraiment ça. D'autant plus, moi vraiment étant arrivée à Marseille cet été, j'ai zéro contact en plomberie, électricité, tout ça. Donc je partais de zéro. Donc, en fait, je me suis juste dit, regarde autour de toi. Bon, déjà, tu vas ouvrir un commerce. Donc, tu vas aller parler aux copains qui ont ouvert un commerce il y a quelques mois, naturellement, qui ont été de très bons conseils dans tout. Donc, Mathilde, hop, très rapidement, elle m'a donné le contact pour les travaux. Galien de la tisserie, je l'ai harcelé nombre de fois sur, on en parlera après, mais le système de caisse, la carte bleue, le terminal de paiement, enfin, toutes les questions cons, je leur ai posé à tout le monde. Je pense que je vais faire un livre d'or après de tout ça. Mais oui, vraiment, la première des choses, c'est de parler, parce qu'en fait, il y a plein de gens. Disons que dans mon milieu, j'ai plein de connaissances, de contacts qui ont soit monté leur commerce, soit des copains qui ont monté leur commerce. Donc, en fait, en parlant, tu te rends compte rapidement qu'on est tous passés par les mêmes étapes, donc on a tous à apprendre. Alors, où il n'y a pas de mode d'emploi, mais en fait, en parlant, tu te dis, ah oui, en fait, il a eu les mêmes problématiques un an avant. Donc, on va lui demander comment il a fait pour résoudre le problème. Et voilà.
C'est peut-être chelou comme comparaison, mais ça me fait penser, là, dernièrement, cette dernière année, j'ai plusieurs copines qui ont eu un enfant, plusieurs copains qui ont eu un enfant.
Sens la comparaison. Qu'est-ce qu'elle va me dire?
Et j'avais plusieurs copines qui me disaient, mais voilà, quand t'es ensuite à le terme approche, oui, tout à coup il te vient une série de questions où tu te dis, mais comment j'ai la réponse?
Exactement.
Forcément, tu te tournes vers...
Complètement, vers ceux qui l'ont déjà vécu. C'est ça.
Autre question qui est assez centrale quand on lance un commerce, celle du budget.
Oui.
Est-ce que as longtemps travaillé sur tes dépenses? Est-ce que tu avais des économies de côté? Est-ce que tu as un peu un plan où tu te dis, bon, il faut que je rentre dans mes frais à tel ou tel moment?
Alors, oui, évidemment. Après, moi, je ne suis peut-être pas le bon exemple parce que le mot business plan, je déteste. Enfin, je déteste. C'est
alors,
pas mal.
C'est
pas la
partie. Que,
alors que j'ai fait. Oh là là, la honte.
Mais c'est pas la partie que je préfère.
Mais bon, clairement, on va pas se mentir, elle est un peu nécessaire. Disons que, bon, ça, situation propre à chacun. Moi, quand je travaillais, j'avais mis un peu d'argent de côté pour ce projet. En plus de ça, j'avais fait, en période de Covid, étant à Paris, j'avais lancé une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank où j'avais levé, je sais plus, je crois, j'avais levé 10 000 euros pour, à la base, louer des cuisines partagées à Paris. Au final, vu que je me suis dit, en fait, mon projet, ma vie, c'est pas à Paris, ce serait un peu bête de dilapider cet argent pour un truc qui va durer 2 mois et puis après, je vais changer de ville. Donc, j'avais gardé cet argent en me disant, ça me servira le jour où j'ai un local. Donc, j'avais ces économies, mais j'ai également fait un prêt parce que dans tout projet, c'est pas nécessaire à tout le monde, mais c'est quand même habituel de faire un prêt. Mais oui, c'est un investissement conséquent à prévoir. Après, c'est comme dans tout. En fait, ça se planifie. Tu fais tes besoins, tes dépenses, tes charges au démarrage et puis tu essaies de voir si c'est viable et voilà, si avec le prêt que tu vas demander, ça va pouvoir le faire. Je n'aime pas cette partie parce que pour moi, elle peut vraiment te bloquer et te faire perdre les moyens en te disant non, c'est mort, je ne peux pas. Alors que non, si tu peux, tout est possible. Mais il y a une partie où oui, c'est quand même nécessaire d'avoir ne serait-ce qu'une petite idée. Moi, au début, on me disait mais il faut faire un business plan à la banque, un prévisionnel parce qu'elle va te demander ton CA à horizon 3 ans. J'étais là, mais moi, 3 ans, je sais même pas ce que je vais faire demain. À 3 ans, ça me paraît inimaginable. Il faut quand même avoir une petite idée de, le panier moyen, le nombre de clients par jour que tu aimerais avoir. Un petit peu cette idée-là, sans que ça te fasse pour autant peur en te disant, non, du coup, c'est impossible, j'abandonne, surtout pas. Mais au moins que tu aies ces petits chiffres en tête, parce qu'en fait, moi, je suis persuadée que même au quotidien, plus tard, ça va un peu m'aider pour me dire, rappelle-toi, tu t'étais dit à peu près ça pour être un petit peu dans les clous. Donc voilà, c'est toujours, on en revient à cette notion d'équilibre. Il ne faut pas que ça fasse peur et que ça te bloque et que ça te fasse abandonner le projet, de te dire non, les chiffres ont parlé, c'est impossible. Non, mais il ne faut pas non plus que tu partes à l'aveugle parce que quand même, il y a une petite partie chiffrée à avoir en tête.
Et alors, pour revenir sur ton projet de pâtisserie, oui. Fais-nous envie, qu'est-ce que tu vas vendre?
Oh là là.
Qu'est-ce que tu vas commencer par vendre?
Oh là là,
tu vas peut-être
là
pas avoir toute ta carte d'un coup.
Je ne sais pas encore. Non, je sais un peu. Alors, moi déjà, encore un morceau, c'est la pâtisserie de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce que j'aime. Déjà, j'ai un profil de reconverti. Donc, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Et moi, ce que j'aime le plus dans la pâtisserie, vraiment, c'est les gâteaux. Pas forcément les gâteaux de boutique super chiadés, compliqués, etc. C'est vraiment le gâteau de mamie. Moi, quand tu le manges, ça va te rappeler un souvenir quand tu étais enfant ou un moment. C'est pas le gâteau qui est forcément super beau, mais c'est le gâteau que tu vas manger tous les jours parce que c'est vraiment un petit péché mignon. Donc, il y aura quoi? Il y aura des babkas, il y aura des cookies chocolat fleur de sel, il y aura des petites tartelettes de saison. Évidemment, je mets l'accent sur le de saison. Là, quand je vais ouvrir, il y aura des fraises, il y aura des petites tartes, des petites tartes au sureau. Maintenant que je l'ai dit, je suis obligée de les faire.
Non, mais je vais revenir pour ça.
Mais non, ça va changer. Je pense que je vais beaucoup m'adapter. Mais moi, vu que j'ai commencé par de la commande, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de pas du tout avoir une carte figée. Donc, de faire vraiment un peu ce que j'avais envie. Donc, peut-être qu'en fait, une semaine, il y aura... 6 produits à la carte, mais la semaine d'après, en fait, selon mon humeur et mon envie, ça va peut-être changer. Alors, je vais m'adapter. S'il y a des clients qui sont vraiment fans de mes cookies, ceux-là, on les retrouvera tout le temps. Mais j'aime bien aussi l'idée de me dire, c'est jamais pareil. Et je vois vraiment mon comptoir dans ma tête, il sera garni de plein de bonnes choses, mais ces bonnes choses, elles vont varier. Voilà.
Depuis l'enregistrement de cet épisode sur un coin de plan de travail, les choses se sont considérablement accélérées. Le comptoir de Sophie est arrivé, elle a passé le dernier coup de balai et, roulement de tambour, c'est le jour de la sortie de cet épisode qu'elle a officiellement levé le rideau. Encore un morceau se situe place Saint-Eugène à Marseille. Courez-y dès aujourd'hui. Merci à Sophie Lauvergne de nous avoir donné de son temps pour parler de l'ouverture de sa pâtisserie. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.